VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Nouakchott, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Mauritanie, un dialogue secret entre le pouvoir et l'opposition en vue de préparer les élections législatives et municipales prévues au second semestre de cette année a finalement échoué après des fuites dans la presse. C'est ce qu'indique ce mardi l'opposition et la majorité présidentielle. Sidi Mohamed Oulmaham, président de l'UPR, l'Union pour la République au pouvoir, affirme que les discussions avaient permis une avancée significative sur la voie d'un accord politique qui devait être signé jeudi dernier. Mais il accuse l'autre parti d'avoir communiqué à la presse une mouture proche de l'accord, mais qui en dénature la forme et le fond, d'où la rupture des négociations. Côté opposition, Mohamed Oulmouloud, président du FNDU, le Front National pour la Démocratie et l'Unité, explique que sa délégation avait demandé d'ajouter au texte proposé par le pouvoir la libération des détenus politiques et la fin des poursuites contre les opposants en signe de bonne volonté, ce qui a irrité l'autre parti et conduit à l'échec des pourparlers, dit-il. Au Sénégal voisin, l'élu d'opposition Barthélémy Diaz, proche du maire de Dakar, Khalifa Sall, récemment condamné de 30 mars à 5 ans de réclusion pour escroquerie, a écopé ce mardi d'une peine de 6 mois de prison ferme pour outrage à magistrat. M. Diaz, maire d'une commune de l'agglomération d'Agaroise et dissident de la majorité présidentielle, a été aussi condamné à payer une amende de 100 000 francs CFA, environ 150 $. Le parquet avait requis lors du procès le 8 avril 2 ans de prison contre M. Diaz, qui avait plaidé non coupable des accusations, notamment d'outrage à magistrat et d'avoir provoqué un attroupement non armé. Partisan fervent de Khalifa Sall, Barthélémy Diaz s'en était vivement pris au juge après la condamnation du maire de Dakar le 30 mars à 5 ans de prison et plus de 7 600 € d'amende pour escroquerie sur les deniers publics et faux en écriture. Khalifa Sall impute ses déboires judiciaires à son statut d'opposant au chef de l'État Macky Sall, lequel l'aurait fait traduire en justice, dit-il, pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2019. La Guinée-Bissau a un nouveau Premier ministre de consensus depuis lundi, Aristides Gomes. La mission principale du chef du gouvernement investi hier, conduire le pays jusqu'aux législatives de novembre et mettre fin à une crise politique qui sévit depuis plus de 2 ans. Le point avec Jacques Aristide.
Quelques heures après avoir été nommé par le président bissau-guinéen José Mario Vaz, Gomes a prêté serment au palais présidentiel. À 63 ans, il succède à Augusto Antonio Arthur da Silva, nommé fin janvier, qui, comme ses prédécesseurs depuis la mi-2015, n'avait pas réussi à former de gouvernement, faute d'avoir obtenu le soutien des partis signataires d'un accord de sortie de crise d'octobre 2016. À la grande inquiétude de l'ONU, la Guinée-Bissau traverse des turbulences depuis la destitution en août 2015, par le président Vaz, de son premier ministre Domingos Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Les deux hommes, membres du même parti, ne s'entendaient plus sur la direction du pays, notamment au sujet de la corruption. Pereira était présent à la cérémonie d'investiture. Pour le nouveau chef du gouvernement, la réussite de sa mission dépendra en premier lieu de la volonté et de la collaboration du président et de toute la classe politique.
Au Mali, la dépravation des mœurs sur les réseaux sociaux était au centre d'une récente causerie débat à Bamako, impliquant non seulement des jeunes femmes et filles, mais aussi des parents. Cette causerie a été organisée par le collectif Les Amazones dans le cadre d'une campagne de sensibilisation face à ce problème. Le point avec notre correspondant dans la capitale malienne, Kassim Traoré.
À la descente du pont des martyrs, on voyait une convergence des femmes vers la pyramide du souvenir. Ce lieu des débats au Mali ouvre ses portes aux femmes du collectif Les Amazones pour parler de dépravation des mœurs sur les réseaux sociaux. Tchakité Khadija Fofana, présidente du collectif Les Amazones.
Nous sommes tous interpellés par la dégradation de la situation, la recrudescence des actes de dépravation qui ont eu lieu à longueur de journée sur les réseaux sociaux, malheureusement. Et donc, nous appelons les gens à chaque fois pour essayer de les sensibiliser avant de dénoncer les choses. Je pense que les témoignages pointus, réactualisés d'aujourd'hui sont beaucoup plus édifiants.
Les réseaux sociaux au Mali, c'est le mauvais usage des jeunes qui a été décrié par les femmes. Diarra Fatoumata Touré, enseignante.
Pour nous, les réseaux sociaux, c'est vraiment diffuser tout et n'importe quoi. Vous pensez que c'est juste à l'ami que vous l'avez envoyé? Cet ami va forcément garder l'image en toute discrétion? Non, c'est que votre vie privée est étalée dans le monde entier. On pose des actes et on oublie les conséquences. Eux, ils pensent qu'ils se mettent en valeur comme ça, que ce soit fille ou garçon. En fait, finalement, ça devient autre chose.
Le collectif Les Amazones veut faire bon usage de certaines de cette causerie en mettant l'accent sur la sensibilisation.
La dépravation de mœurs, vous le savez, c'est une réalité aujourd'hui. Nous voyons à longueur de journée des cas de viol qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, les gens doivent savoir que ça, c'est quelque chose de très grave. Parce que les parents, aussi bien que l'État, doivent essayer de se donner la main pour un peu, je ne dirais pas freiner, mais pour essayer de sensibiliser les jeunes, parce que ça n'honore pas du tout l'image de notre pays.
Une vaste campagne de sensibilisation sera initiée par les Amazones dans les espaces scolaires pour mieux sensibiliser les enfants et les jeunes afin qu'ils puissent faire un bon usage des réseaux sociaux. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
République centrafricaine, la France a dénoncé dans un communiqué lundi l'instrumentalisation dont elle fait l'objet, dit-elle, en Centrafrique. Alors que des groupes armés du quartier musulman de Bangui, théâtre de violence depuis début avril, se sont réclamés du soutien de Paris. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Tout est parti d'une distribution de tracts dans le quartier musulman de Bangui, le PK5, où une milice armée indique avoir le soutien de la France. L'ambassade de France a aussitôt dénoncé ce qu'elle considère comme des tentatives d'instrumentalisation. Autrement dit, la France refuse à être présentée comme un soutien de groupes armés. La mise au point intervient après les violences meurtrières qui ont secoué Bangui après le début, le 8 avril, d'une opération militaire des casques bleus et des forces armées centrafricaines contre les groupes armés du quartier PK5. Les combats qui ont opposé les militaires aux milices ont fait au moins 25 morts, dont un casque bleu et une centaine de blessés. Depuis, des drapeaux français ont été hissés dans le quartier PK5, en plus des tracts distribués. La présence de drapeaux français relève d'une grossière manipulation visant à faire croire à une divergence entre les objectifs de la France et ceux des autorités centrafricaines et de la MINUSCA, dit le communiqué de l'ambassade de France, qui estime que ces drapeaux contribuent à entretenir un climat de confusion sur le rôle de la France en Centrafrique.
Au Kenya, trois membres de la commission électorale kenyane ont démissionné lundi, ce qui accentue le chaos au sein de cette commission depuis les ratés de la présidentielle de l'année dernière. Lionel Gaïma.
Avec ses départs, la commission ne compte plus que deux membres et son président. La semaine dernière, son directeur général a été placé en congé administratif en attendant un audit sur les questions de passation de marché. Selon la vice-présidente Consolata Nkatamaina et la commissaire Margaret Mwachanya, les événements liés à la suspension du directeur général ont gravement entamé le peu de confiance publique dont jouissait encore la commission. Le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, assure néanmoins que l'institution fonctionne malgré le départ de plusieurs de ses membres. Pour sa part, le leader de la majorité au Sénat, Kipchumba Murkomen, a dit que Chebukati et les autres commissaires restants devraient démissionner dans la semaine. Sinon, une enquête judiciaire sera ouverte contre eux, a-t-il averti.
Conflit en Syrie pour terminer, les experts de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, n'ont toujours pas pu entrer dans la ville de Douma, près de la capitale Damas, pour y enquêter sur l'attaque au gaz présumée du 7 avril. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le directeur de l'OIAC, Ahmed Unzuku, a annoncé que la mission de l'organisation n'a pas encore été déployée à Douma. La Syrie et la Russie invoquent des problèmes de sécurité. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié toute mauvaise volonté de la part de Moscou. Les autorités russes ont rappelé qu'elles étaient, dès le début, pour une enquête impartiale. L'ambassade de Russie auprès de l'OIAC a assuré que l'arrivée des experts à Douma était prévue pour demain mercredi. La tension internationale ne faiblit pas après les frappes de représailles menées samedi par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni contre des sites du régime de Bachar al-Assad. Ces frappes font suite à l'attaque chimique présumée du 7 avril dans la ville alors rebelle de Douma. Elles sont intervenues malgré la présence en Syrie des enquêteurs de l'OIAC qui ont débuté dimanche leur mission. Les derniers combattants rebelles de Douma ont quitté samedi la ville après un accord de reddition signé le 9 avril, soit deux jours après l'attaque chimique présumée. Le régime syrien nie que des armes chimiques ont été employées dans le drame de Douma qui a fait au moins 40 morts et des centaines de blessés selon les secouristes.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.